Merci beaucoup. Et je voudrais juste vous dire qu'il y a 7 chapitres dans ce livre et chaque chapitre est consacré à un sujet très précis et c'est extrêmement intéressant. Et notamment, il y a donc ce que vous avez évoqué au début, donc la géographie et toutes les difficultés qui sont liées avec la gestion d'un pays aussi énorme, disparités économiques et sociales, bon, et donc les inégalités absolument terribles. Et d'autre part, j'ai trouvé le chapitre sur l'identité, les recherches de l'identité russe, extrêmement intéressante. Je ne sais pas si c'était votre partie.
Oui,
à
c'est
vous,
plutôt. Mais... Non, c'est plutôt Marlène qui a
Marlène
fait ça,
Rémy.
Mais moi aussi je travaille là-dessus, on a fait
oui,
ça.
Oui, certainement, oui. Donc j'aimerais bien que vous nous en parliez un tout petit peu.
Ben, ils sont en plein débat. Ils sont en plein débat parce que, comme Sarkozy, Vladimir Poutine a pensé faire de cette question identitaire un instrument du consensus politique qu'il veut mettre en place dans son pays. Et comme avec Sarkozy, c'est plus compliqué qu'il ne le pensait, je pense. D'autant plus compliqué qu'évidemment, la Russie n'est pas le même pays, n'est pas la même population. C'est-à-dire, c'est quand même une population multiethnique. Et dès qu'on fait un pas, dès que les lobbies proches de l'Église orthodoxe, par exemple, du patriarcat, dont Medvedev ou sa femme faisaient partie certainement, plus encore que Poutine, font un pas, par exemple, avec l'histoire du nouveau cours d'éducation religieuse que le patriarcat de Moscou a demandé au ministère de mettre en place. Ils ont fait toutes sortes d'essais. Ça s'est traduit par quelque chose d'assez étrange. Parce que finalement, ils pensaient faire quelque chose... Le patriarcat pensait qu'on allait faire une sorte d'instruction religieuse dans le cadre scolaire, basée principalement sur la religion orthodoxe, parce que c'était la religion dominante. Il se retrouve avec le fait qu'il y a maintenant 7 manuels concurrents, un sur, alors je sais plus, ça a des noms compliqués, l'éthique orthodoxe et je sais pas quoi, un sur la religion juive, un sur la religion bouddhiste, un sur la religion sur l'islam, et un sur l'éthique, je sais plus le nom, enfin je vais me tromper, mais je le cite dans le livre.
Protestants
et catholiques. Non, protestants et catholiques, ils sont étrangers, admis, mais étrangers. Mais sur laïque. L'histoire des religions et de l'éthique laïque, quelque chose comme ça. Et c'est celui-là qui a été choisi en majorité, et pas celui sur la religion orthodoxe. Donc la société, elle résiste aussi, et c'est compliqué. Par ailleurs, il y a la diversité ethnique et religieuse, et du coup, il y a des débats fondamentaux qui sont complexes. D'abord, sur la dénomination du pays, Rassiski ou bien Ruski. Rassiski gasudast, l'État... Russien ou Ruske gasudast, l'État russe, au sens État-nation des Russes, ethnique. Sauf que ça met de côté 20% de la population. Et plus encore, en fait. Et du coup, ça marche pas. Et ce qui est assez intéressant, il y a tout un débat en ce moment. Ils sont en train de travailler là-dessus, sur une nouvelle mouture d'un... Je sais pas comment ils vont le déclarer, la stratégie identitaire et ethnique, je sais pas comment ça va sortir... Ils sont en train de travailler. Visiblement, ils vont vers une, on pourrait dire, une dénationalisation du mot russe, ruski. C'est-à-dire l'idée que russe, ça serait un terme englobant, comme c'était d'ailleurs en partie à l'époque impériale, où le mot russe ne désignait pas que les Russes ethniques, mais il désignait au moins les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, et puis tous les Slaves. Donc c'était un terme plus englobant que le mot russe qui aujourd'hui, qui désigne la langue russe, l'ethnie russe. Et on va vers ça, on va vers une sorte de compromis, parce qu'ils ont essayé Rassiski gasudast, Rassiski à l'époque d'Helsine, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas vraiment marché. C'est un mot qui convient pas. Et en même temps, évidemment, ces questions identitaires, elles sont compliquées parce que... C'est pas seulement des migrants, c'est exactement comme nous, au fond, d'une certaine façon, parmi les populations qu'on montre du doigt, dans les banlieues, etc., il y a à la fois des migrants étrangers, c'est-à-dire d'Afrique noire, ou de Chine, ou de je ne sais où, de Turquie maintenant, et d'Irak, de Syrie, ok. Et puis il y a aussi ceux qui sont français, c'est-à-dire que ce soit les Antillais, que ce soit... Les Algériens qui sont arrivés, etc., etc., et qui ont la citoyenneté française, même s'ils n'ont pas forcément la même couleur. Et donc, et pour les Russes, c'est pareil. Parce qu'il y a les étrangers, mais il y a les tchornis de l'intérieur, c'est-à-dire les Tchétchènes, les Daghestanais, etc., etc. Et donc, un gros problème, parce que c'est des peuples qui sont actifs, certains très actifs, les Tatars, les Tchétchènes, les Daghestanais, actifs, intelligents, ambitieux, ils ne se laissent pas faire, ils ont leur moyens d'action, pas forcément toujours très recommandables. Et du coup, ça fait. Alors, quand en plus il y a un Kadyrov à la tête de la Tchétchénie, ça provoque toutes sortes de problèmes. Parce que finalement, l'accord qui a été passé entre Poutine et Kadyrov fils, quand le père a été assassiné, on ne sait pas exactement quelle est la nature de cet accord. Mais ce qu'on l'observe, c'est qu'il laisse en Tchétchénie se créer une situation qui est contraire aux lois fédérales, sur pas mal de points. Et tout ça, ça pose un problème par rapport aux autres, par rapport aux voisins, etc. Ça ne pourra pas durer très longtemps, je pense. Mais pour l'instant, c'est la situation actuelle. Et on laisse Kadyrov faire, et pas seulement chez lui, mais aussi un peu à Moscou, au moins dans le business.
Vaste question. Oui. En fait, en parlant des Russes et des Russiens, ça me fait penser que quand les Russes parlent des Juifs, ivris, ils mettent la religion plus les athées plus les. Si vous voulez, donc pour eux, il n'y a pas vraiment de différence entre la religion judaïque et les gens qui viennent de l'Afrique du Nord, notamment. Ils sont tous mis dans le même lot, les Juifs. Donc je me demande si ce n'est pas à peu près la même chose qui va se passer avec le mot russe, si ça ne va pas passer
Pour les Juifs, il y a un héritage soviétique. Il y a le fait qu'on a défini les Juifs comme étant une catégorie qui n'était pas religieuse, mais qui était une catégorie ethnique. Sans appartenance religieuse, même s'il y avait une religion, évidemment, attachée pour un certain nombre. C'est un héritage. En même temps, il y a moins de 100 000 juifs maintenant en Russie, qui se déclarent juifs au recensement. Donc c'est un problème, mais il y a une politique vis-à-vis de ça. Et Poutine a été très attentif, parce que ça concerne évidemment Israël, toujours, d'ailleurs, la politique internationale et la politique intérieure sont toujours extrêmement liées en Russie, beaucoup plus sans doute que dans d'autres pays.
Il y a encore une question qui me travaille beaucoup, c'est le messianisme russe. C'est-à-dire que ça m'a toujours frappé le fait que les intérêts collectifs ont été primés toujours sur les intérêts individuels, ce qui était, pour moi, qui suis née dans un pays qui n'existe plus, dans l'Union soviétique, et même dans une ville qui a été renommée. Donc. Mais, si vous voulez, le fait que les intérêts collectifs étaient placés au-dessus des intérêts individuels, ça a toujours été ça a toujours été, si vous voulez, vraiment un point de fierté en quelque sorte des Russes. Et il y a eu plein de films, de littérature, de poèmes qui justement disaient beaucoup de bien des héros qui se sont sacrifiés pour le bien du pays et plus largement pour le bien de l'humanité, donc en marchant complètement sur leurs propres intérêts et donc en se sacrifiant complètement jusqu'à leur vie pour le pays et pour l'avenir glorieux de l'Union soviétique. Et à un moment donné, début des années 90, on nous a dit finalement, il y a peut-être aussi les intérêts individuels. Ça existe peut-être aussi. Et donc les gens, ils ont commencé à avoir une certaine individualisation. Sauf que je vois qu'avec le retour de la nostalgie de l'époque soviétique, des années brejneviennes, où c'était, si vous voulez, l'essor de la culture soviétique, j'ai l'impression que c'est aussi le retour de cette idée que donc les intérêts collectifs, c'est plus intéressant. Donc je vous demande de serrer la ceinture, grosso modo la parole de Poutine comme moi je l'entends. Vous n'allez quand même pas me parler de vos pensions de retraite au moment où on va sauver le monde du djihadisme. Et donc j'avais vraiment l'impression que c'était ça. Donc la Russie doit sauver le monde, notamment du terrorisme. Et après, on va s'occuper de nos affaires intérieures. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a des discours parallèles et que, en tout cas, il y a des réalités parallèles. Je crois que l'individualisation des fonctionnements sociaux a énormément progressé dans les 30 dernières années en Russie. On peut le regretter ou on peut estimer que c'est la logique de l'évolution mondiale. En tout cas, c'est ce qui ressort de tous les sondages. Il y a plein de sondages là-dessus, du centre Levada et des autres. Et on s'en sert un peu dans le livre, qui montre que, voilà, parce que les gens le regrettent en partie. Parce qu'évidemment, ils magnifient une période où, justement, les aspects collectifs, l'entraide, etc., étaient beaucoup actifs. Et donc, ils trouvent que le fonctionnement individuel à l'intérieur de la petite cellule familiale, c'est quelque chose qui est négatif, en partie pour une part assez importante de l'opinion, telle qu'elle est mesurée, par exemple, par les instituts de sondage. En même temps, je pense qu'il n'y a pas forcément adéquation et... Le discours sur le nouveau messianisme russe, ça c'est assez intéressant, ces espèces de croisades, le rôle que veut jouer la Russie, le rôle que essaye de jouer l'Église orthodoxe, le rapprochement des églises, il y a plein de choses. C'est un des objectifs fondamentaux de la politique internationale. Après, il n'y a qu'à voir la façon, toutes les ambiguïtés et les hésitations sur l'anniversaire de 1917. Parce qu'à la fois, ils veulent remettre en marche le 1er mai, il y a un certain nombre de choses. On veut utiliser, essayer d'utiliser. Au fond, Poutine, il a besoin. Son problème, c'est d'arriver à un consensus le plus large possible pour faire passer son programme, ses réformes, etc. Et donc, il utilise tous les instruments, y compris des instruments qui peuvent être contradictoires les uns avec les autres, mais qui s'adressent à différentes catégories de la population. Il donne des choses aux nostalgiques ou à certains nostalgiques jusqu'à un certain point, mais en même temps, il est embêté parce que l'idée de révolution, aujourd'hui, pour lui, c'est banni. Donc c'est compliqué de fêter la révolution alors qu'on ne veut pas de révolution. Enfin voilà, en gros, c'est un peu simple, mais il y a un peu de ça. Donc on veut essayer de fêter quelque chose sans trop... Et en même temps, il n'y a pas que le pouvoir. Donc en fait, il y a plein de célébrations qui vont avoir lieu. Et il y a plein de colloques, en Russie même, donc ça ne va pas être fin, parce qu'il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose. Parce que tout le monde va en parler, donc une situation comme ça qui n'est pas complètement clarifiée. Et en même temps, c'est assez intéressant d'observer les débats historiques, parce que le messianisme russe actuel, il reprend langue avec les idées de Troisième Rome. On retrouve des trucs très anciens qui datent du XVIe, du XVIIe siècle. Il y a une histoire longue. La Russie, comme partout, hein, d'ailleurs, comme pratiquement dans toutes les grandes sociétés, il y a une histoire longue et donc des références qui ressortent et qui sont réutilisées, instrumentalisées et que les dirigeants essayent de faire fonctionner en les remettant un peu au goût du jour. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, et voilà. Donc... Mais effectivement, cette idée sur les valeurs, parce que ces valeurs, le nouveau messianisme russe, la croisade des valeurs, elle est en partie aussi liée à des valeurs qui sont familiales et individuelles. C'est pas seulement des valeurs collectives. Il y a un ensemble de choses. Donc c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais bon, je me rends pas compte, en particulier comment les Russes eux-mêmes perçoivent. Parce que attention, eux Enfin, ceux qui regardent la télévision, parce que tout le monde ne regarde pas la télévision en Russie non plus. Ceux qui regardent la télévision, ils ont une télévision quand même qui est assez incroyable. De la propagande, mais brutasse. Et je ne sais pas si elle est très efficace. Elle ne doit pas l'être complètement, puisque la première source d'information des jeunes entre 20 et 30 ans, c'est plus la télé. C'est Internet. Donc c'est pour ça qu'ils ont perdu une partie de la jeunesse. Mais s'ils continuent comme ça avec une télé aussi nulle... Bah, ils vont continuer de perdre des segments importants de leur population, parce que les gens vont refaire comme à l'époque soviétique, où il y avait plein de gens qui ne regardaient pas la télé, enfin, en tout cas ils regardaient la télé, mais pas pour les informations, pas pour certaines choses. Ils savaient que c'était de la propagande, et ils la classaient propagande.
On va peut-être passer à des questions.
Je vais vous poser une question, parce qu'on dit tout le temps, Poutine a fait ceci, il avait ce projet, etc. Est-ce que c'est un homme seul? Qui a-t-il avec lui?
Bien sûr que non, il n'est pas seul. Non, ça, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y a une façon, officielle, administrative. L'administration présidentielle, c'est le noyau actif, fondamental du pouvoir russe aujourd'hui. Plus que le gouvernement et plus que les parlements, qui ont un rôle, mais qui le jouent de façon sous la tutelle de l'administration présidentielle. Donc déjà, il y a ça. Et ça représente beaucoup de monde. C'est un organisme riche et dont, sur lequel on sait peu de choses, à part quelques éléments comme ça, globaux. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Il y a très peu de... Il n'y a pas de canard enchaîné en Russie. Et donc,
il y a les radios Svoboda quand même.
Oui, mais on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire qui est la maison présidentielle, franchement. Les nominations, tout ça, on suppute. Il y a plein d'articles, plein de rumeurs, tout ça, mais de sources sûres, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent.
Et le droit de propriété nationale,
c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Non, je crois que c'est... Il y a une autre façon de répondre à ça. Il a été décrit de façon très précise les hommes de Poutine. C'est-à-dire les cercles qui sont ceux qu'on estime être les proches de Poutine. C'est pas très simple, mais qui ont été classés en fonction d'un certain nombre de critères qui ont fonctionné jusqu'à présent. Il y avait ceux, mais au demeurant, rien d'extraordinaire. Parce que si on regarde nos systèmes à nous, la promotion Voltaire de l'ENA du temps de Hollande, enfin, c'est quand même incroyable. Donc, en fait, c'est des fonctionnements identiques, mais avec la spécificité russe. Donc, les gens qui étaient avec lui quand il était agent du KGB en RDA, les gens du KGB en Russie, les gens de sa période de Saint-Pétersbourg, puisqu'il a été adjoint au maire de Sobchak, etc. Donc, il y a des strates comme ça. Avec des noms, on sait qui c'est, on sait quel emploi ils ont obtenu quand il est devenu président, quelle a été l'évolution de leur fortune. On a un certain nombre de données là-dessus. Et les gens de la datcha, de la coopérative Ozero, qui était, parce que quand il était à Saint-Pétersbourg, du temps de Sobchak, il a monté une petite coopérative pour faire construire des petites maisons, résidences secondaires, de datcha. Et ils étaient, je ne sais plus, 7, 8, 9, je ne sais plus. On a les noms. Et on voit qui ils sont devenus. C'est vraiment l'entourage de Poutine. Donc il n'est pas seul, bien sûr que non. Alors après, ça peut évoluer, etc. Mais ça a été décrit. Alors il y a ceux qui ont dit, voilà, « Ich Dom Rassir », leur maison russe, les proches de Poutine. Il y a un autre observateur, Minchenko, qui décrit ça. Vous pouvez le trouver, c'est un Russe qui vit en Russie. C'est pas les Américains. Hein. Il appelle ça « Politburo 2 ». Je pense que ce n'est pas correct, mais il se sert de cette image. Politburo 2, c'est-à-dire, voilà, et il présente, allez voir les sites, c'est assez amusant. Il y a un diagramme circulaire où il met des couleurs et ceux qui sont très proches, moins proches, les actifs, etc. Et il case un peu un certain nombre de gens comme ça, voilà. Donc, bien sûr que non, qu'il n'est pas seul. C'est pas possible. C'est pas un surhomme. Voilà comment on peut répondre à votre question.
C'est l'abord, la politique.
Bien sûr, certainement.
Poutine fait ceci vers les États-Unis, Poutine fait cela.
Oui, il a un certain nombre de conseillers, il a des gens sur chaque dossier, il a des gens. Alors, il y a des gens qui probablement sont très proches, d'autres moins proches. Il y a des conseillers qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont conseillés à un moment puis qui sont éloignés. Eh bien, s'il meurt, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra à sa place, rassurez-vous.
Sans doute, mais...
Non, j'ai aucune...
Il n'y a pas de succession, il n'y a pas de...
Il y aura des élections, mais on est dans un pays démocratique. Il y aura des élections et il y aura un nouveau président.
Enfin,
je veux dire, si quand Pompidou est mort, il y a eu des élections. Ben, si Poutine meurt, je ne blague pas. Formellement, c'est ça qui se passera.
Oui, mais on raconte qu'on a été chercher Poutine, donc il faudra aller chercher son successeur.
Peut-être que le successeur de Poutine sera parmi les premiers ministres qu'il va essayer pendant son dernier mandat. Oui, sans doute, parce qu'évidemment, c'est pas n'importe qui arrive de nulle part, comme Macron, qui arrive pas de nulle part d'ailleurs.
Poutine, il était un peu inconnu au bataillon quelques mois avant son élection aussi.
C'était pas la même époque. D'autre part, il n'était pas complètement inconnu, mais effectivement, Eltsine,
il était quand même.
Du grand public, il était chef du KGB quand même, du FSB. Il était chef du FSB depuis plusieurs années. Mais Eltsine a essayé plusieurs. Si vous regardez la fin d'Eltsine, il a essayé 3 ou 4 premiers ministres en 4 ans. Et voilà, en 2-3 ans. Donc voilà, peut-être que ça se présentera comme ça ou autrement, je ne sais pas. Ce qui est certain, je pense, c'est qu'il prépare sa succession. J'en suis sûr. Mais on ne le saura pas. Et on ne saura pas qui. Sinon que il va sans doute mettre ceux, il va tester les gens et donc Shoigu, ministre de la Défense, qui est un des proches, on le sait, Medvedev, il l'a usé, il va sans doute dégager parce qu'il est trop marqué maintenant, et quelques autres, il y en a quelques autres qui sont déjà en place. Kyrienko, ou bien on peut déjà citer des noms qui sont à un moment donné dits plus proches, moins proches, mais voilà, il y a une nébuleuse de gens et quand même probablement le successeur sera dans cette nébuleuse, déjà un peu connu quand même.
Quelle est la place de Lavrov dans le dispositif ?
C'est un très très bon technicien, c'est un très grand diplomate, très proche de Poutine et un très bon diplomate. Les Russes ont toujours eu des très bons diplomates. Il n'y a qu'à voir la succession des grands ministres des Affaires étrangères. Et de ce point de vue-là, les Occidentaux sont un peu démunis, parce qu'avec les systèmes où ça change tous les 4 ans, ou tous les je ne sais pas quoi, c'est les Lavrov, Gromyko, etc., c'était des diplomates extraordinaires, avec une connaissance des dossiers, et puis un degré de manipulation aussi, enfin tout ce que ça veut dire. Et Lavrov fait partie de cette catégorie, je pense. C'est un très très grand diplomate, qui est capable des pire coup fourré. Hein. Il fait des trucs quand même complètement... On n'oserait probablement pas, mais je me souviens d'un exemple, ça m'avait frappé quand même. Il y avait eu cette histoire avec cette famille allemande, avec un enfant adopté, je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui est mort, ils ont accusé... Lavrov lui-même, quand même, c'est incroyable, a accusé le régime de la République fédérale d'avoir fait je sais pas quoi. C'était du bidon total. Mais après tout, Power est capable de faire ça au Conseil de sécurité. Donc c'est des gens qui font de la politique comme ils font de la politique. Mais Lavrov, parce qu'on a pensé, à un moment donné, on disait beaucoup qu'il allait être changé, et que celui qui allait être nommé, c'était l'ambassadeur à New York, qui est mort, là, celui qui est mort. Alors évidemment, ça, Lavrov est toujours là. Mais peut-être qu'il ne voulait pas le changer, c'était des rumeurs, donc on ne sait pas.
Je vais poser une question. Au début, tu as évoqué la longue durée. Enfin, à un moment donné, la longue durée. Et si, sur les 30 dernières années, 20 dernières années, tu as parlé du rapprochement de la Chine, l'affaiblissement relatif de l'économie, enfin, de la position internationale de la Russie, même si aujourd'hui, il y a une stabilisation, et par rapport à la Chine, est évident. Si on prend des débuts des les années 80, même encore à l'époque de l'Union soviétique, ou 90, et aujourd'hui. Et en même temps, on a l'impression que après une première période de crispation identitaire, les Russes se rapprochent, comme tu le disais, de la Chine. Mais je voulais savoir si, du point de vue des politiques publiques de l'État, parce que les investissements en Chine, les énormes investissements, disons, route de la soie, ou sont des investissements qui se combinent avec le marché, avec un marché qui est au moins aussi développé que capitaliste, qui est au moins aussi développé qu'en Russie. Donc est-ce que, dans la Russie actuelle, il y a une réflexion sur, je ne sais pas si c'est la mixité, mais l'articulation entre des politiques publiques, d'investissement. Tu as dit que Poutine, dans la dernière phase, a développé un projet qui était effectif de politique sociale. Mais il y a eu des politiques industrielles autres pour sortir des matières premières et de la corruption que génèrent les matières premières et finalement de la dépendance internationale d'un marché qui est un marché fluctuant et variable des matières premières. Parce qu'une des difficultés russes a été aussi, ces dernières années, de faire face à la question du prix ou de la crise des matières premières.
Bien sûr. Alors la crise des matières premières a eu un effet extrêmement fort sur l'économie russe. Et les spécialistes qui suivent ça, il y a une courbe, on l'a reprise d'un japonais qui montre vraiment... la courbe du PIB russe suit de façon absolument parallèle la courbe des cours du pétrole. Donc là-dessus, il n'y a pas photo, c'est clair. Alors en même temps, ils veulent quand même stabiliser ce secteur, et le moderniser. Parce qu'ils pensent, et je pense qu'ils ont raison, que ça va rester très important pour longtemps encore. Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils ont cette richesse, parce qu'il y a des besoins qui vont... En dépit de tout le réchauffement climatique, les économies d'énergie, etc., on va avoir besoin encore pendant un certain temps de gaz et de pétrole. Donc voilà. Et d'autre part, ils veulent diversifier. Et il y a une stratégie de diversification qui est beaucoup plus compliquée que l'autre, parce que c'est plus compliqué de remettre, d'investir. Ils ont un déficit d'investissement, c'est évident, à la fois parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a des politiques hésitantes, parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a plein de choses à faire en même temps. Enfin, voilà. Mais ils ont cette stratégie d'investissement et de diversification dans des secteurs de nouvelles technologies, etc. Ça prendra du temps. Dans certains cas, peut-être qu'ils vont aller un peu plus vite, d'autres moins vite. Et sur les deux côtés, ils s'adressent aux Chinois. Les Chinois interviennent de façon décisive sur plusieurs projets. Il y en a un qui concerne alors les secteurs énergétiques et qui est très important, je pense, pour les Russes. Ils vont sauver, grâce aux Chinois, le projet de Novatek à la péninsule de Yamal, c'est-à-dire le premier grand projet de construction d'une usine de gaz liquéfié, une des technologies qui manquait aux Russes, qui sont en train d'acquérir. Financé, Novatek, c'est une société russe concurrente de Rosneft. Total, 20%. Là, CNPC, le géant chinois de l'énergie, 20%. Il y avait Novatek, 60%. Qui a revendu en 2014-15, je sais plus, 19% au fonds chinois de la route de la soie, qui permet aux Russes d'éviter les sanctions américaines. Parce que les sanctions américaines tendaient à bloquer ce projet, puisqu'il leur fallait des investissements, des crédits, et il va être sauvé, parce que le nouveau partenaire chinois, lui, il intervient en yuan, il est hors de l'art, et donc ils échappent aux sanctions. Et c'est un projet extrêmement important qui va permettre de livrer le gaz aussi bien, vous regarderez où est Sabetta, le port, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. C'est-à-dire aussi bien à l'Union européenne par tanker que vers les pays asiatiques. Et de l'autre côté, il y a le projet aéronautique que je signalais, gros contrat signé par Poutine et le dirigeant chinois, pour fabriquer le prochain gros porteur civil russe, russo-chinois, qui va être assemblé à Shanghai, près de Shanghai, avec une grande partie du fuselage, etc., construit en Chine, et les moteurs construits à Perm, dans la fameuse usine de moteurs classique, mais un nouveau moteur qui va être mis au point, etc. Je pense que ça va marcher. Il y a de fortes chances. Puis d'autres projets, alors il n'y a pas que les Chinois, bien sûr.
Juste une question parce que j'ai vu que les Chinois avaient fait un grand projet pour toute l'Extrême-Orient pour proposer aux Russes d'alimenter en produits agricoles frais avec des sociétés chinoises, compte tenu des déficits et puis des problèmes de transport, pour en quelque sorte proposer aux Russes l'alimentation en produits frais.
De toute façon, l'Extrême-Orient russe n'est pas autosuffisant en produits agricoles. Donc il faut qu'ils importent. Soit ils importent des régions européennes de la Russie, ça coûte très cher, parce que c'est à 8000 km, 7000 km. Soit ils importent éventuellement de la Chine, qui est beaucoup plus près, ou du Japon, ou d'ailleurs. Enfin, le marché kolkhozien d'Irkoutsk, toute une partie s'appelle Shanghai déjà. Ils l'appellent Shanghai. Pas idiot, Shanghai. Quand ils ont ouvert la frontière après Gorbatchev, le commerce transfrontalier sur l'amour. En fait, on s'est aperçu assez rapidement. Là, il y avait les Chinois qui arrivaient avec les marchandises chinoises qui se répandaient jusqu'à Moscou. Et les Russes d'Extrême-Orient, du Sud, ils allaient en Chine faire leurs courses. Parce que c'était moins cher, meilleure qualité, meilleure présentation. Et en plus, on pouvait s'amuser. Il y avait des parcs d'attractions, il y avait des hôtels pas chers, service impeccable, alors que de leur côté, pas terrible.
D'autres questions ?
Navalny, si je suis, il est en instance de procès, puisqu'il y a un nouveau procès contre lui, dont on ne sait pas très bien ce que ça va donner, parce que c'est un truc bizarre, c'est les suites du procès qui a déjà été jugé une fois, il y a la Cour européenne de justice qui s'en est mêlée, enfin bon, c'est une histoire, je sais pas, moi je suis pas juriste et j'ai pas le dossier, un gros dossier compliqué, genre affaire Tapie ou autre, je sais pas, donc il y a ça. S'il le condamne, il ne peut pas être candidat aux élections. Ça, c'est sûr, déjà. Mais on verra, parce qu'ils hésitent. Ils ont besoin de vrais candidats, donc on ne sait pas. Ce mouvement, il n'est pas né de rien. Il est inscrit dans la société russe profondément. Il y a des manifestations qui peuvent avoir lieu. c'est une société complexe, fragilisée, tendue, parce que la situation actuelle n'est pas brillante, avec la récession économique depuis 2013, regain de pauvreté, baisse des revenus, baisse du pouvoir d'achat. Tout ça, les gens, alors ils résistent, ils sont prêts à se mobiliser parce qu'ils ont le sentiment qu'effectivement, les sanctions, etc., mais qui est capable de réagir. Et donc, les retraités peuvent manifester. Il y a eu cette histoire, c'est assez étrange qu'ils aient lancé ça maintenant. Le plan est assez correct du point de vue, mais ça heurte évidemment les gens sur des choses sensibles. Ils ont décidé à Moscou de détruire tous les Khrouchtchev, les bâtiments khrouchtcheviens des années 60, c'est-à-dire ces fameux bâtiments à 5 étages sans ascenseur, 4 étages sans ascenseur, assez pourris aujourd'hui. C'était un progrès à l'époque, sauf que c'est comme les HLM qu'on avait dans nos banlieues un peu partout et qui ont été petit à petit rénovés, mais il en reste encore par-ci par-là, mais on les a quand même pas mal rénovés. Eux, ils proposent un truc radical, on détruit, et à la place d'un bâtiment de 5 étages, de 5 niveaux, on construit 12 étages. Et ça s'autofinance, et même ça produit des bénéfices, parce qu'on reloge les gens sur place, enfin, pas sur place exactement, mais dans le même quartier, c'est ce qui est prévu, y compris avec des améliorations, et on vend les autres logements, et on fait des bénéfices. Sauf que ça inquiète les gens, évidemment. Parce que c'est tellement massif que là, du coup, ils se disent « mais où est-ce qu'on va être logé ?» etc., etc.
C'est-à-dire que quand ils s'adressent à des mairies de leur arrondissement, on leur dit « on n'a aucune information,
voilà.
Vous allez
donc ils manifestent
peut-être en dehors de Moscou. »
Et ça, ils ne veulent pas.
Et il n'y a pas que des Khrouchtchev, que si je me permets, parce qu'apparemment...
Il n'y a pas que, mais c'est un...
Oui,
4000...
oui, il y en a quelques-uns.
Il y a quand même 4,5 d'immeubles.
Oui, mais il y en a beaucoup.
Il n'y a pas que...
Mais presque que... Non, c'est assez ciblé sur cette... Parce qu'en même temps, c'est des bâtiments qui sont entourés souvent par des espaces verts, un peu de jardins, des squares, etc. Donc il y a de quoi faire de juteuses opérations immobilières. Donc c'est pour ça qu'ils veulent le faire, c'est clair. Après, s'ils tiennent l'engagement de... Parce que jusqu'à présent, il y en a déjà beaucoup qui ont été faits. Et en gros, les gens qui voulaient vraiment être logés dans le même quartier, ils étaient relogés dans le même quartier. S'ils tiennent cet engagement, ça va un peu apaiser les... Mais on ne sait pas.
Non, il y a aussi question de propriété.
Oui, mais ça, ils sont propriétaires. Ils en ont déjà détruit pas mal. Ils ont fait beaucoup d'opérations déjà. Et en général, c'était à la fois la ville et des opérateurs privés. Ou des constructeurs privés. Mais pour le compte, souvent, de la ville. Après, la propriété, qu'est-ce que devient la propriété des nouveaux immeubles ? Je ne sais pas, mais... On doit savoir, moi je ne sais pas.
C'est une question de, peut-être de musique, c'est l'état des sciences sociales et des sciences humaines, en général, pas d'histoire, mais comment la part qui est... Parce que dans beaucoup de pays, c'est actuellement très, très menacé, et en Russie, il y a eu tout le problème des scientifiques qui n'étaient pas directement, en quelque sorte, dans des sciences appliquées pour des objectifs immédiats qui ont souffert. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est-il pour les sciences humaines et sociales en général ? Ce que tu connais dans tes collègues dans...
Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont engagé des réformes structurelles très importantes. On est en cours, donc ce n'est pas évident de dresser un bilan. Il y a plein d'aspects. Il y a des aspects, en tenant compte, vraiment, on a un dossier très compliqué. Parce que La recherche en sciences humaines, par exemple, à l'époque soviétique et ensuite, était principalement dans des instituts de l'Académie des sciences.
Exactement.
Les universitaires faisaient peu de recherche parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils avaient un nombre d'heures, etc. Ils faisaient peu de recherche. Ils essayaient d'en faire un petit peu, mais... Donc la recherche réelle se faisait dans ces instituts de l'Académie des sciences qui étaient répartis dans tout le territoire. Enfin, pas partout, mais il y en avait pas mal. L'Académie des sciences a refusé de bouger, quand même. Ils ont fait la politique de l'autruche, et ça fait longtemps qu'on voulait les réformer. Il y avait des tas de, là aussi, corruption, des tas de problèmes, l'immobilier de l'Académie des sciences, enfin, des trucs invraisemblables. Ils ont refusé de bouger, et au bout d'un moment, ça a cassé, et donc il y a eu une réforme imposée, mais qui est imposée, mais en cours, et pas clair du tout sur ce qui va finalement arriver. On ne sait pas. Franchement, je discute avec mes collègues de l'Institut de géographie, ils ne savent pas. Mais, dans le même temps, il y a une volonté de faire passer une partie importante de la recherche dans les universités. Ce qui est peut-être bien, à condition de leur donner les moyens, à condition de réduire leurs services, etc. Et ça pose plein de problèmes. Dans le même temps, il y a une libéralisation du système universitaire, dans le sens d'un nombre de plus en plus grandissant de la part du privé dans les universités russes. Donc ça fait un autre dossier, mais qui est assez compliqué aussi. Et si on se place d'un autre point de vue, les résultats de la recherche. Moi, ce que j'observe dans les quelques domaines que je suis, sociologie, ethno, histoire, géographie, il y a plein d'excellents travaux dans tous ces domaines. En histoire, des trucs formidables avec des archives nouvelles, des documents, des commentaires, des trucs. Il y a des dossiers difficiles, hein. Si tu prends le dossier de la famine de 33, c'est coincé, mais il y a quand même 2-3 types qui ont vraiment fait des percées. Sauf qu'ils n'arrivent même pas à obtenir tous les documents qu'ils voudraient. Ils les obtiennent côté ukrainien, ils n'arrivent pas à les obtenir côté russe. C'est quand même paradoxal, etc., etc. Tu vois, à chaque fois, les dossiers sensibles, c'est verrouillé ou compliqué, etc. Et en même temps, des trucs formidables. Il y a des chercheurs formidables. Mais qui sont dans une situation, ils ne savent pas eux-mêmes comment ça va évoluer. Les salaires ne sont pas mirobolants. Et en plus, alors, il y a une, après la crise ukrainienne, un nouvel aspect. On a vu passer, alors est-ce que c'est officiel, pas officiel, des directives recommandant, en tout cas dans certaines universités, les recteurs ont dit plus question d'avoir des échanges avec les universités occidentales, c'est dangereux, on veut plus, on peut plus. Dans d'autres, ils s'en foutent, ils continuent, au contraire, parce que dans le même temps, on leur demande de rentrer dans le classement de Shanghai. Alors évidemment, pour rentrer dans le classement de Shanghai, il faut avoir des coopérations internationales. Donc, paranoïa, comme souvent en Russie. Mais on ne sait pas d'où vient l'ordre. On sait qu'il y a le FSB qui est très actif et qui essaye de verrouiller, mais pas forcément sur ordre de Poutine, mais parce que c'est leur logique de fonctionnement. Alors, ils craignent, voilà, donc ils surveillent, et ils essayent de bloquer des trucs qu'ils pensent bizarres. Et en même temps, là, j'étais récemment encore à l'université de Kazan. Les gens de Kazan, eux, ils veulent ouvrir, ils veulent des coopérations, ils veulent des articles dans des revues internationales, ils organisent des colloques, et ils sont prêts à faire tout ce qu'on veut. Enfin, et ils ont pas mal d'argent, parce que c'est une université fédérale, il y a des pôles d'excellence qui sont en train d'apparaître aussi. Donc voilà, c'est vraiment, comme toujours, à propos de la Russie, compliqué. Et pas univoque.
Avez-vous d'autres questions ? Dans ce cas-là, on va peut-être remercier M. Radvani pour sa présentation et pour son livre. Je vous remercie tous d'être venus. Si vous voulez trouver les coordonnées du livre, il est sur le site de la Fondation. Sur la page de l'annonce de notre rencontre d'aujourd'hui, il y a le lien vers Armand Collin, chez qui vous pouvez justement commander le livre.